Mais bon.
Et bon, bonjour à tous et bienvenue sur Paris Central Show pour débriefer cette victoire poussive contre Brest 1-0. Désolé pour les supporters, vous avez aujourd'hui les frères Bogdanov, Dryas, bonsoir.
Bonsoir Igor, comment vas-tu?
Très bien, alors je sais que certains disent qu'on les déprime un peu, donc il n'y a pas de positif ce soir, ce sont les deux déprimés, mais on va trouver du positif quand même, ne vous inquiétez pas.
Moi j'ai du positif à dire.
On va commencer par la performance collective, ensuite on regardera individuellement et on parlera de Galtier et de la rotation. Est-ce que pour vous il tourne assez ou est-ce qu'il doit faire plus? On va commencer par la performance collective. Dryas, tu as vu du positif, qu'est-ce que tu as aimé dans ce match?
Ce que j'ai aimé déjà, c'est les progrès au niveau de la charnière. Alors bien sûr, tout le monde va parler de Danilo, mais j'ai aussi envie de parler du rôle de Ramos et du rôle d'Hakimi. Hakimi a été assez décevant dans l'utilisation de son couloir, mais par contre, Ramos a été très intéressant dans l'utilisation du couloir et Hakimi était très intéressant dans les compensations. Et en fait, on s'est retrouvé avec une charnière où on était très rarement avec des soucis d'alignement, très rarement avec des soucis de sous-nombre au niveau de la charnière. Et pour ça, il y a eu un vrai axe de progression. Ensuite de ça, déjà c'est déjà un gros point. Après reste le problème du milieu, mais pour les points positifs, c'est vraiment celui que je mettrais. Je dirais aussi que Vitinha un peu plus écarté sur les ailes. Alors surtout en première mi-temps, en début de deuxième mi-temps, il le fait beaucoup moins. Et après ça va pas être que du.
Il y a Laurent qui nous dit première purge de la saison. T'es pas d'accord du coup avec ce mot?
Mais en fait le match, moi je l'ai vraiment regardé par rapport aux axes d'amélioration et au niveau de la charnière, je voyais tellement de problèmes, des problèmes d'alignement, des problèmes. Il y en avait un qui montait, c'était jamais compensé, etc. Et c'est juste que dans le fait qu'on travaille en fait une défense à trois. Avec toutes les contraintes que ça implique, le fait de voir du mieux, et moi je me suis concentré en fait sur ce mieux-là, et donc je dirais pas purge, parce que je l'ai regardé sur cet axe-là, et j'ai vraiment vu du mieux, qui nous permettra un jour de mieux jouer. Après maintenant, il y a encore des énormes soucis au milieu, au niveau de l'organisation collective, mais ça on en parlera après, j'imagine.
Alors là, moi je suis moins d'accord, par exemple Apollon qui nous dit, ce qui est bien, c'est qu'il y a des circuits qui se dessinent de plus en plus. J'ai pas vu trop de circuits de jeu avec ballon aujourd'hui. Je te rejoins, Dryas, notamment sur le fait défensivement. Pendant 60 minutes, Brest ne frappe pas, on n'est pas mis en difficulté et on se dit on gère. Mais le problème, c'est qu'il y a 1-0, t'es pas à l'abri, tu vois. Quand t'arrêtes de jouer comme on le fait par séquence, ou alors on joue trop facile, les occasions qu'on a, c'est des petites touches de Neymar, des ouvertures de Messi, etc. etc. Quand t'es trop facile, tu peux te retrouver à subir une erreur. Et elle est arrivée, même si on y reviendra sur l'arbitrage, il n'y a pas forcément pénalty de Kimpembe, mais il se met en situation de fait qu'il puisse y avoir une faute sifflée contre lui. Et heureusement, Donnarumma est là pour nous sauver. Mais s'il y a un partout, à l'arrivée, c'est pas le même match. Enfin, c'est pas le même, on n'a pas le même, ouais. la même analyse.
Mais alors, pour le coup, si tu veux, il y a eu un impact qui a été monstrueux. C'était la sortie de Marco Verratti. Il y a beaucoup de choses à redire sur le milieu, notamment, après, par exemple, il y a un truc qu'on voyait avant, c'était un énorme trou au niveau du milieu. Ce trou a été beaucoup mieux habité par le milieu, beaucoup moins de difficultés, même contre des équipes qui n'étaient pas si fortes que ça, vraies difficultés à pouvoir ressortir le ballon un peu proprement. Il y a eu beaucoup plus de solutions à ce niveau-là. Le manque de solutions, c'était un peu plus avancé. Et Marco Verratti a eu un impact. Marco Verratti, que moi, j'ai trouvé vraiment très, très, très bon ce soir, a eu un impact défensif qui est juste monstrueux. Et quand tu te retrouves avec Fabián Ruiz, que j'ai beaucoup aimé, hein, mais justement, si on en parle au niveau de l'impact défensif, et avec Vitinha qui doit faire le job de Marco Verratti, bien avant les trois autres changements, bien avant même les 10 minutes où Brest commence vraiment à pousser, on commence déjà à perdre tous les duels qui sont au milieu.
Après, on en reparlera dans la troisième partie, mais on a des joueurs qui physiquement étaient cuits en fin de match contre la Juve et qui l'étaient aujourd'hui au bout de 30-45 minutes. Hein, Vitinha, tu sens qu'il est physiquement, il commence à piocher. Mbappé, il a été dans le dur, même au-delà techniquement, je pense qu'il était dans le dur physiquement. Messi, la dernière demi-heure, c'est très compliqué. Donc ça, c'est aussi un problème. Non, si tu remets le même 11 trois jours après avec juste deux changements qui sont dans la même ligne, c'est-à-dire en défense, forcément, tu dois t'attendre à ça, surtout dans un match qui est coincé entre deux matchs de Ligue des Champions. Enfin, je sais pas si toi, tu as vu une équipe un peu poussive physiquement.
Par moment, oui. Alors après, tu dis ça. Puis d'un autre côté, on a vu un Ramos. Je ne l'ai jamais vu autant courir du match, le Ramos. Je l'ai vu faire des kilomètres. Alors Danilo, on en parlera individuellement. Hein, pour moi, qui fait une masterclass monstrueuse. Et d'ailleurs, il faudra faire gaffe à l'emballement parce que pour Danilo, il faut rappeler que c'est Brest en face. Mais on a vu un Ramos qui fait des trucs. On a vu un Messi qui est pour moi flamboyant pendant 60 minutes. On a vu un Neymar. Ouais, c'est vrai que Neymar, la deuxième mi-temps, est plus discutable. En fait, là où vraiment je vais te rejoindre, ça va être Mbappé pour tout le match et Vitinha et Neymar pour la deuxième mi-temps. Mais pour les autres, en première mi-temps, cet argument physique, pour moi, il tient pas tant. Et ça tient plus des difficultés d'animer ce système qu'on a choisi. Et sur cet axe, j'ai vu des vrais progrès.
Alors, il y a Néo Luffy qui nous dit Galtier aurait pu se faire tourner. On va en parler tout à
On
l'heure.
va en parler
Donc,
tout à l'heure, ouais.
reste. On parle déjà du match, on en parlera tout à l'heure. Un mot sur l'arbitrage. Un peu bizarre, je trouve. Alors,
Ouais,
on a les deux. Il y en a qui disent l'arbitre a très bien arbitré. Il y en a quelqu'un qui nous dit arbitrage pro-parisien. On serait cru Santiago, mais en même temps, le mec s'appelle Real Vardrid. Donc, on aura compris. Et il y a Juan qui nous dit j'aimerais parler de l'arbitre. Laissons continuer les actions. On revient sur ces décisions. Calme très vite les débats, de l'empathie et de la compréhension. Tu l'as trouvé bien, toi aussi? Les gens ont l'air d'avoir aimé. Mais...
J'ai trouvé qu'après moi, enfin, à part pour moi, il y a une énorme erreur, c'est Kimpembe en fin de match. Alors déjà, bon, il y a le penalty qui n'y est pas, mais là, ses assesseurs au niveau de la VAR auraient dû intervenir. Maintenant, il met un jaune à Kimpembe qui n'y aurait été pas, mais même sur la fin de match, pour moi, Kimpembe, c'est un rouge direct.
Ah bah
C'est un rouge
en
direct.
plus il vient tenir le
Mais
bras de
voilà,
l'arbitre,
mais
c'est déjà
ouais,
impact.
j'allais venir. Mais rien que la
C'est...
faute en elle-même, il arrive à toute berzingue, il prend les pieds du mec, le mec est blessé, c'est le même truc. Et donc là-dessus, je l'ai trouvé un peu gentil. Maintenant, sur le match, indépendamment d'être pour un club ou pour l'autre club, j'ai trouvé qu'il avait tendance à un petit peu trop siffler. Alors après, oui, il y a des fautes, etc. Mais c'est juste s'il en avait sifflé ne serait-ce que 15% de moins, ça aurait un peu plus fluidifié le jeu. Et là, mine de rien, trop de sifflets, il a contribué à le hacher un petit peu et j'ai trouvé ça dommage. Voilà ce que je dis pour l'arbitrage.
Sinon,
Sinon.
je trouve en première mi-temps, on gâche beaucoup d'occasions. C'est vrai que dans les premières journées, on marquait un peu quasiment sur chacune de nos frappes. Donc, il y avait notamment des analyses un peu biaisées, notamment ce 7-1 à Lille qui reflétait pas forcément la performance du PSG avec un score très flatteur, même si on avait dominé, qu'on méritait la victoire. Et là, on voit que quand on commence à gâcher, forcément, c'est plus compliqué. Et je trouve qu'on est de moins en moins efficace. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Est-ce que ça t'inquiète pas? Comment tu l'expliques?
Ben, en soi, enfin, une des notes que j'ai prises, c'est une question, c'est est-ce que l'ASM a lancé une mode en fait? Le 3-5-2 pour nous jouer, c'est un truc que tu vois de plus en plus souvent. Et mine de rien, c'est tu te retrouves avec une ligne de 5 derrière, une ligne de 3 au milieu, et réussir à trouver des espaces et comme tu dis, gâcher. Alors après, il faut aussi qu'on parle de notre proportion à toujours trop utiliser l'axe, notamment Messi là-dessus.
C'est vrai qu'Hakimi, encore une fois, n'est jamais servi. Il n'a pas fait un centre, je crois, aujourd'hui.
Ouais, mais après il a fait beaucoup moins de montées. Bon après Bernat était beaucoup plus utilisé, comme quoi on a vraiment, ça dépend pas que nous, on a vraiment tendance à utiliser le côté gauche. Je sais plus ce que je disais, on parlait quoi?
Sur l'utilisation des côtés.
Oui, bah l'utilisation des côtés, oui, bah il y avait un peu de mieux, mais on le fait de toute façon, on le fait pas assez, mais c'est un truc qui est récurrent chez nous.
Alors, il y a Igor, on va saluer Madar. Et lui dire de s'entraîner à la pétanque pour la semaine prochaine. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le collectif ou tu veux passer aux individualités?
Ben, sur le
Est-ce
collectif.
que, est-ce que, est-ce que par rapport au match contre Haïfa, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Est-ce que ça t'inquiète? Même si tu as dit que tu avais des
Ben
choses des axes de progression, est-ce que globalement, c'est les 4-5 derniers matchs qu'on fait t'inquiètent pas un peu?
pour moi, il n'y a que du mieux par rapport à IFA, en fait. Pour moi, il n'y a que du mieux par rapport à IFA. Notamment le travail au niveau de la défense et le travail au niveau des milieux. Après, il y a pas assez de mouvement. Et c'est le problème, c'est que à la fois, bon, au niveau défensif, ça s'est compensé, mais on arrive à plus facilement sortir du pressing adverse, qui au début, Brest a essayé, ils ont essayé pendant 10 minutes, ils ont vu que ça marchait pas, est-ce qu'ils n'avaient pas le talent pour, etc. Mais en tout cas, on était capable de sortir. Mais une fois que tu te retrouves avec le porteur qui a passé la première ligne, il y a jamais assez de mouvement dans cette équipe. Et donc, c'est encore un des axes de progression qu'il faut avoir. Pour moi, on est tellement pas un produit fini. Mais là où je me focus, c'est qu'il y a du mieux sur des points au niveau de l'organisation tactique.
Ouais, bah écoute, tu seras la caution positive du soir. Tu remplaces
Mais
Tonton ou Barry. Je resterai dans
exactement.
mon rôle caution négatif. C'est vrai que moi, c'était pas un match désagréable, mais voilà, c'était lent. Alors après, c'est normal dans un match commencé entre deux matchs de Ligue des Champions. Il y a aussi Lyon la semaine prochaine. Je m'attendais pas à autre chose. Donc à partir du moment où je m'attends pas à autre chose, je peux pas être déçu, mais j'ai pas été surpris. On va passer au perf individuel.
Par rapport à ça, il y a le bus renforcé. On peut parler du fait de notre manque de
Ah putain.
mouvement, mais qu'une équipe
On
arrive
doit.
avec 8 joueurs à vocation quasi défensive, même si elle laisse Melo dans le lot.
Il y a une action qui est très marrante, c'est celle où Bernat fait une petite louche. avec derrière Messi tire et c'est Mbappé qui la sort du but, qui malheureusement sort du but, c'est sur Bernat, le temps qu'il fasse la petite louche, t'as 9 Brestois qui arrivent comme ça d'un coup, t'as que des Brestois dans la surface, t'as 2 Parisiens. C'est vrai que c'était assez drôle le bus de Derzakarian. En même temps, on peut le comprendre, c'était la moins bonne défense du championnat depuis le début de l'année, il s'était pris un 5-0 à domicile contre Montpellier, donc on va dire qu'il est retourné aux fondamentaux bien Derzakarian. On va passer à la rubrique les notes des Bogdanov. Jingle. On va commencer par le gardien de but. Donnarumma, tu lui mets combien ?
7.
Et n'hésitez pas à donner vos notes aussi dans les commentaires. 7, et pourquoi ?
Tout le monde va parler du penalty, mais au-delà du penalty et de la frappe qui est plus, enfin la frappe involontaire de Slimani, la poitrine involontaire de Slimani, mais il y a aussi une frappe en première mi-temps avec une frappe extrêmement vicieuse. Alors elle rebondit pas juste devant lui, mais elle est très basse et aller la chercher cette frappe, c'est pas rien. Et mine de rien, tu mets les trois bout à bout, pour moi, il fait un très gros match.
Ben moi, je mets 8 parce qu'il est décisif, il sauve 2 points, tout simplement. C'est ce qu'on demande à un gardien. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas trop du match. Il est au chômage technique et il fait vraiment les 2 arrêts ou les 3 arrêts qu'il faut. Donc, pour moi, c'est 8.
Pas oublier celle de la première mi-temps. C'est peut-être la plus difficile. C'est
celle qui relâche un peu, c'est ça ?
Non, pas celle-là. Je te parle d'une qu'il arrive à capter, mais d'une frappe qui vient de 25 mètres, qui est comme une feuille morte, mais qui tombe plus bas. Enfin, elle est super dure à capter. Elle est sur le côté, elle est tendue à choper, quoi.
Mais écoute, les gens donnent entre 7,5 et 9, donc ils sont plus ou moins d'accord. Enfin, ils sont d'accord avec nous sur Donnarumma. Bernat, tu veux que je commence. C'est moi qui donne ma note. Tu lui donnais un 5. C'est vrai qu'on voit tout de suite la différence d'explosivité quand il sort pour Nuno. Il y a un monde d'écart maintenant dans l'explosivité entre les deux. Maintenant, Bernat, on va dire, a fait son taf. Il n'a pas eu grand-chose à faire défensivement. Il a essayé de proposer des combinaisons et des appels dans son couloir gauche. Je parlais tout à l'heure de l'occasion où il fait sa petite touche en retrait pour Messi. Donc voilà, ce n'est pas un grand Bernat. On sent qu'il est plus aussi participatif qu'avant et plus aussi apte physiquement qu'avant. Mais c'est un Bernat, pour moi, que j'ai trouvé correct, donc 5.
Alors que Nuno fait une très mauvaise rentrée pour le coup, j'ai envie de dire qu'il est difficile de passer après Nuno, quoi. Donc rien d'autre à ajouter. Il fait un bon match, mais par rapport à Nuno, c'est très loin. Donc,
C'est vrai que Néolé nous dit c'est pas vraiment un piston.
Quand il jouait à Munich, c'était qu'un piston, etc. C'est pas non plus vraiment un latéral, hein, pour le coup, Bernat, moi je trouve.
Il a fait ses bons matchs dans une défense à 4 à Paris, en tout cas. Mais c'était avant sa blessure. C'est sûr que depuis qu'il revient, Bernat n'est pas mauvais, mais il ne retrouve plus le peps qu'il avait il y a encore un an. Il a eu une grave blessure à son match. C'était pas la première, en plus, c'était la seconde. Donc voilà. Kimpembe.
Alors, Kimpembe, il fait une... Avant sa sortie hallucinante son tacle là et le péno, mais le péno, pour moi, je le prends pas en compte. J'allais lui mettre 6,5, voire 6 plus, mais avec son tacle, j'ai envie de lui mettre 4.
Je vais mettre pareil, hein. C'est vrai qu'il faisait un match plus que correct, il n'était pas pris en danger, il était plutôt actif à la relance sans être vu comme Ramos, qui lui a vraiment joué quasiment parfois comme meneur de jeu, on en reviendra. Il fait plus trop ses montées de ballon au pied, les longues relances.
Il en a fait une. Il est vraiment haut et moi j'étais choqué parce qu'il n'était pas du bon côté. Tu sais, il était côté droite et je me dis, mais à la perte de balle, ça peut poser problème là. Mais il en a fait une.
On est plus ou moins d'accord sur le chat, ça va de 4 jusqu'à 6, beaucoup de 4, donc pour le moment les gens nous suivent. Danilo, c'est moi qui m'y colle. Danilo, pour moi, c'est...
Mais non, t'es fait Kim.
Non, c'est toi qui viens de faire Kim en premier.
Ah oui, merde.
Et désolé. Danilo, j'hésite entre 7,5, parce qu'en fait, non seulement défensivement, il fait ce que n'a pas fait Marquis dernièrement, c'est-à-dire qu'il a très bien géré la gestion de la profondeur. Si Brest n'a pas été dangereux, c'est aussi pour ça. Il n'a pas fait de sortie à contre-temps comme peut faire Marquis dernièrement. J'ai trouvé plutôt très bien dans ce rôle de libéro qui peut venir s'intercaler en 6. C'était toujours fait à bon escient. Et dans la relance, depuis le début de saison, dans la relance, Danilo, il est impressionnant. Il fait des fois, il se remet sur son mauvais pied pour aller trouver une espèce de semi-transversale sur le côté. Il a fait des sorties de balle avec Ramos qui m'ont assez bluffé. Donc ouais, Danilo, 7,5.
Ouais, mais j'avais la même note que toi. Franchement, il flirte avec le 8. Après, le seul bémol de la performance de Danilo, c'est l'équipe de Brest et c'est les attaquants brestois. Quand il va se retrouver face à des attaquants plus rapides, est-ce qu'il sera capable d'avoir cette maîtrise ? Il a une maîtrise de la profondeur, de la latéralité. Faut aussi le souligner. Quand il se projetait, notamment sur les coups francs, il était très habilement compensé par les latéraux. Mais pour moi, il a vraiment fait une masterclass. Et puis même son court match au milieu, bah, il s'est avéré très très utile. Donc pour moi, c'est clairement un 7,5, mais juste à tempérer avec Brest, parce qu'on sait que le défaut de Danilo, c'est sa lenteur. Et face à des attaquants très rapides, ça pourrait poser problème.
Alors, j'ai une petite question à te poser. Vous pouvez aussi répondre dans les commentaires. Si on veut une vraie concurrence, est-ce que sur ce début de saison, vu les performances en demi-teinte de Marcus et les bonnes perfs de Danilo, est-ce que Danilo mérite d'être titulaire à Haïfa? On ne parle pas non plus de Liverpool ou du Real. Est-ce que Danilo mériterait d'être titularisé mercredi?
Ben, en l'état, en fait, il est juste loin devant, tout simplement. Oui, il mérite. Et Marquinhos, faut le tancer. Après, la grande question qui se pose, c'est est-ce que Ramos serait pas encore meilleur que Danilo au poste de libéro? Et c'est le seul truc. Mais Marquinhos, de toute façon, il va falloir le bouger, lui trouver des solutions, parce que ce poste de libéro, il n'y arrive tout simplement pas. Donc, tu vois, je vois même pas de concurrence entre les deux. Je vois juste un joueur qui comprend le poste et un joueur qui comprend pas le poste. Et on insiste avec le joueur qui comprend pas le poste, et ça m'inquiète, ça.
Les gens demandent Danilo à la place de Kimpembe. Je vois ça passer. Danilo est plus rassurant que Kimpembe, etc., etc. Bah, Kimpembe, le problème, c'est que c'est Kim, quoi. Il a toujours une ou deux dingueries et on ne sait pas quand ça va arriver. Là, ça arrive contre Brest à la 60e, mais ça peut arriver en Ligue des Champions, quoi. C'est sûr que ce n'est pas un défenseur qui est ultra fiable. Surtout dans une DF à 3 où les erreurs sont plus problématiques pour moi que dans une DF à 2. Mais écoute, on n'a pas recruté à ce poste, donc on va faire avec ce qu'on a. Hein. On va passer à Ramos, ta note, Seb.
7 pour alors après il fait en deuxième mi-temps, clairement il a du mal, mais déjà ses interventions défensives là, il a vraiment cadenassé son couloir tout en étant extrêmement offensif. Des fois on se demandait si c'était lui le latéral ou si c'était Hakimi était limite par moment en première mi-temps au moins aussi souvent que lui celui qui était derrière au niveau de la charnière. Et quand Hakimi montait, il proposait des dédoublements très intelligent dans ses montées. J'ai vraiment aimé son match.
Moi, je vais lui mettre 6,5 à cause de ses 20 premières minutes où un peu compliqué défensivement, où il a un peu tensé sur le... Non, peut-être pas 20 minutes, c'est même 10 minutes. Après, je te rejoins. On l'a vu faire beaucoup de transversales aujourd'hui, beaucoup plus que les derniers matchs. Notamment, la première occasion parisienne vient d'une transversale de Ramos de la droite vers la gauche. Et c'était le seul à le faire.
Et je vais réagir aux commentaires d'après. Ouais. La question qui se pose, c'est, enfin, faudrait au moins l'essayer là-dessus, parce que Danilo nous apporte toutes les garanties du monde, mais il nous les apporte contre Brest. Alors après, si Danilo va nous les apporter contre Haïfa, puis ensuite de ça, contre une équipe encore plus huppée, bah, pourquoi pas? Et à la limite, Danilo pourrait être la super bonne surprise. Mais j'aimerais bien qu'on essaye Ramos à ce poste, surtout que Marquinhos serait peut-être plus cohérent à droite. Mais c'est pas le choix qu'a fait l'encadrement et.
Ouais. Alors pour moi, quand il y a Danilo, je comprends que Danilo soit libéro et Ramos à droite. Par contre, quand il y a Marquinhos s'entêter avec Marquinhos en libéro, qui est un défenseur qui aime chasser haut, qui aime une mauvaise gestion parfois de la profondeur, c'est vrai que je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a cette idée que vu qu'il avait été très bon en 6, il va être bon en libéro, mais en fait, ça n'a rien à voir. Être 6, c'est de temps en temps descendre ou être libéro et de temps en temps monter, ça n'a rien à voir. Et j'ai un peu de mal avec cette idée. Je le disais en début de saison et pour le moment, les perfs de Marquinhos vont dans ce sens, même s'il est en dessous son niveau de jeu, hein. Marquinhos, on va pas se mentir non plus, il peut faire beaucoup plus que ça. On va passer à Hakimi, ah, tiens, c'est pour moi Hakimi, dur à noter, hein, Hakimi, tellement il a été discret, mais en même temps, est-ce que, comme nous le dit un commentaire, est-ce que c'était pas des consignes pour combler le manque de vitesse des 3 DC? C'est possible, mais c'est, voilà, c'est vrai qu'on l'a, je sais pas comment le noter, 5 parce que je sais pas comment le noter, j'ai envie de lui mettre 4, mais en même temps, c'est dur, je vais dire
non,
5,
tu peux lui mettre 4.
Je vais dire 5.
Tu peux pas lui mettre 4, ne serait-ce que grâce aux compensations défensives qu'il fait. En fait, il a là-dessus, il a été très très fort. C'est juste que
combien, du coup?
Bah 5 aussi. 5 aussi parce que c'est difficile d'apprécier. Et puis c'est un piston, tu l'attends devant, il a pas fait de différence, il est rarement servi. Je lui mets 5, mais comme toi par défaut.
Ouais, après, il y a beaucoup de 5, des 4, des 4,5. Pour le moment, tout le monde est. Il n'y a pas de gros point de désaccord sur nos notes et ceux des commentaires, ils sont d'accord aussi entre eux. Le milieu de terrain, c'est à moi de commencer. Je commence. Tu veux comment?
Moi, comme tu veux.
Oh, allez, comme moi, je te lance sur Verratti. T'en as parlé.
Non, je vais commencer sur Marco.
Alors, je commence sur Marco ou tu veux commencer?
Non, je commence sur Marco.
C'est ce que je te dis, commence sur Marco.
Ah, d'accord. Je commence sur qui, du coup?
Verratti.
Ok, d'accord. Donc, Vitinha.
tu veux commencer sur Viti? Je m'en fous, moi.
Bah, c'est pas toi qui m'as dit que tu commençais sur Marco?
Commence pas, voilà, les gens vont nous perdre, on va perdre les gens, regarde, on a déjà perdu du monde.
Marco, pour moi, il a fait, c'était le Marco de tous les feux, il a été exceptionnel, il s'est proposé devant. On a remarqué, enfin, on a vu un truc, c'est à sa sortie. Tout de suite on perd la mainmise au milieu. Dès qu'on a plus la balle, on n'est plus capable de faire des récupérations assez hautes. On est tout le temps très vite dépassé et avec le ballon, il a souvent fait les beaux choix. Alors après, il a pas forcément trouvé toujours des décalages, quoi, qu'il fait une ou deux louches qui sont bien senties, mais je me souviens plus exactement. Mais pour moi, Marco, il vaut 8 sur ce match.
Alors, on a du 7,5, du 8, du 7,5, et moi, vu que je vais être d'accord avec quelqu'un qui porte bien son nom, c'est Angry Bird. Qui met 6. Voilà. Moi, je l'ai trouvé un peu lent dans ses transmissions, dans ses orientations, notamment les 30 premières minutes. Après, il n'y a pas forcément d'appel, mais il y en a plusieurs des fois où tu as un appel sur la droite, et il retourne sur lui-même pour la remettre en retrait. Et maintenant, je ne vois plus que ça, en fait. Moi, sur Verratti, il m'énerve tellement dans ce genre-là que ça me pète à la gueule et je ne vois plus que ses défauts.
Ouais,
je
ne
sais pas si tu vois ce que je comprends. C'est un joueur que j'adore, mais ses défauts me tiltent tellement que je ne vois plus que ça.
Le truc, c'est que je vais un peu anticiper. Si tu veux tout, on avait Vitinha qui était « Ah, qu'est-ce que ça fait bien, il passe vite la balle par rapport à Marco Verratti. » Et là, on se retrouve avec Fabien Ruiz, on se dit « Ah, qu'est-ce qu'il fait bien, il passe vite la balle par rapport à Vitinha. »
Ruiz, il a eu du mal. Hein.
Sur certains trucs, oui. Mais
il a
sur
perdu
la
un ballon sur deux. Ah ouais, il jouait vite.
Après, voilà.
Il
a perdu un ballon sur... Et le truc, c'est juste pour mettre en avant, en fait, la lenteur de transmission de Marco Verratti. Mais ça, Marco Verratti, il ne changera jamais à ce niveau-là.
Alors, c'est pas la Verratti en défense, il n'y a rien à dire. Les gens qui disaient souvent qu'il manquait, qu'il c'était indispensable d'avoir un Matuidi, un Gayou, etc. Parce que Verratti ne défend pas. Ça a toujours été une grande légende. Verratti est parmi les milieux de terrain en Europe qui défend le mieux. Bon, pas en duel aérien, évidemment. Vitinha, vas-y, commence aussi. Je te laisse tout le milieu.
Vitinha, 6. En sachant que j'ai mis 8 à Marco. Vitinha intéressant. C'est celui qui écarte les ailes. Il est très souvent bien placé, très très intelligent dans ses compensations. Après, un petit peu discret dans son utilisation du ballon. Et il a pêché en fin de match. Donc pour moi, un 6.
Alors regarde, tu vois, lui, il va dans mon sens. En premier temps, je comptais le nombre de touches de balle de Marco. Une passe, toujours 3
minutes. Mais lui, c'est Lionel. Mais bien sûr. Mais ça, on le sait avec Marco.
C'est Lionel. Vitinha, moi je lui mets 5. C'est pas contre lui, j'ai trouvé un peu épuisé tout à l'heure, je l'ai dit, épuisé physiquement, notamment contre la Juve en fin de match. Il commençait à tirer la langue et ça s'est vu aujourd'hui, même si voilà, il a joué dans un rythme tranquille, pépère, il a pas fait un mauvais match, il a plutôt été propre, toujours intelligent dans son déplacement, placement, tu vois, toujours bien placé entre Verratti et Messi et Neymar, mais voilà, c'était assez neutre. Et Tonton a raison, hein. Mais likez, on ne le dit pas assez, nous. Barry et Tonton ne sont pas là, donc Tonton vient nous le rappeler à l'ordre. N'hésitez pas à mettre un like pour le référencement, ça nous aiderait beaucoup. Donc là, il y a un peu plus d'écart, hein. Vitinha, il y en a qui disent 5, il y en a qui disent 6, 6,5.
Bon. Ouais, mais moi,
entre toi et moi.
En fait, ce qui me gêne dans le 5, c'est que le joueur a quand même proposé des choses, il proposait des solutions. Ce qu'on va pouvoir reprocher beaucoup à Vitinha, c'est son impact, son ballon, qui est faible par rapport à celui de Marco Verratti. Mais à partir du moment où le joueur écarte, et je pense en première mi-temps, on a pas mal écarté, même si c'était pas toujours utile avec cette équipe qui était avec une ligne de 5, tout simplement. Le simple fait qu'il soit là, placé au bon endroit, au bon moment, etc., pour essayer de d'assurer les transitions, permettre des transitions. Je trouve ça un petit peu dur de lui mettre 5. Mais bon,
après... si Sanchez n'était pas blessé, Vitinha aurait été remplaçant. Pour aujourd'hui, c'est possible. Pour le faire souffler, sachant que Ruiz n'était pas apte à jouer 90 minutes, c'est possible. C'est une forte possibilité. On va passer aux attaquants. Allez, je vais prendre la main. Messi. Compliqué. 6,5 ou 7, Messi? Je vais lui mettre 6,5. Il lui manque juste le but, encore un poteau, hein, le pauvre, avec cette magnifique tête. D'ailleurs, un but de la tête de Messi, ça aurait été pas mal. Et non, ça ne veut pas, c'est le poteau. Mais si, voilà, je trouve que parmi les trois, c'est celui qui joue le plus rapide, qui facilite le plus le jeu. Il y a ces deux ouvertures, même si ça joue sur un poil de bite, sur les hors-jeux, sur le rouge brestois qui est annulé, c'est Messi qui a l'ouverture. Sur le premier but, c'est encore Messi qui a l'ouverture avec un bel appel de Neymar, on le soulignera tout à l'heure. C'est vrai que revoir Neymar faire des appels, ça faisait plusieurs mois, plusieurs saisons qu'on ne le voyait pas et je le vois pas mal cette année. Mais ça, je suis en train d'embrigader sur Neymar. Donc Messi, 6,5, par rapport à sa fin difficile. C'est vrai que lui aussi aurait peut-être pu sortir. On voit qu'il tire la langue sur les 30 dernières minutes. Après, quand Verratti et Neymar sortent, c'est sûr qu'il se retrouve un peu seul à faire la création haute. Donc c'était plus compliqué. Toi, tu lui mets combien?
Bah, un peu la même note. Il y a un grand défaut chez Messi, il y a trois joueurs devant, mais il va quand même tenter la solution axiale. Pour qu'il écarte sur les ailes, faut vraiment qu'il soit à la bord de la surface. Et ça nous coûte pas mal de pertes de balles, mais en même temps, ça va avec c'est le joueur qui est comme ça. On va faire les remplaçants après, je pense. C'est le joueur qui est comme ça. Et je vais pas lui reprocher. Il est presque décisif trois fois. Il est décisif une fois. C'est lui qui a la tête de plein de mouvements. Ah, ça c'est un truc que j'ai oublié de dire. Il y a deux trucs que j'ai oublié de dire sur l'animation collective. Ouais, tu peux pas lui mettre moins que 6,5, je pense.
Ouais. Neymar.
Ben Neymar, je lui mets 6. Je lui aurais mis 6,5, mais sa nervosité en fin de match lui coûte son demi-point. C'est du bon Neymar. C'est pas forcément le meilleur Neymar, sauf comme tu l'as dit tout à l'heure, un Neymar qui recommence à faire des appels. Mais c'est un Neymar qui a beaucoup fluidifié son jeu, beaucoup simplifié son jeu, qui tombe encore un peu trop, mais quand même vachement moins. Sauf justement en fin de match où on voit les démons remonter un petit peu.
Moi, je mets comme Messi, 6,5 pour Neymar. C'est vrai qu'il a eu un peu du mal à rentrer dans son match. Après, il a eu une très très bonne période jusqu'à la 60e. Et après, cette nervosité. Mais c'est quand même un bon Neymar parce qu'il a lâché énormément de bons ballons, notamment de petites touches que Mbappé. Mbappé, il a. Ah, il y a un choix au moment où Neymar choisit Messi et pas Mbappé, qui est peut-être pas le meilleur. Mais généralement, il a quand même trouvé dans le bon tempo les attaquants. Plusieurs fois, Mbappé vendange un peu des belles passes de Neymar. Donc voilà, c'est pas un énorme Neymar. C'est pas un Neymar qui virevolte, mais il mérite son 6,5. Mbappé, enfin, pour finir, avant les remplaçants, Mbappé, moi, je vais lui mettre 3. Il n'a pas réussi grand chose, notamment les 30-35 premières minutes, il réussit absolument rien. Et après, il s'est commencé à se créer des occasions, mais il a absolument tout raté. Donc, quand tu es un attaquant qui, dans le jeu, n'est pas forcément là, et quand il a les occasions, les rate, c'est compliqué de mettre plus que 3 pour moi.
Il reste une menace, c'est-à-dire qu'il continue de peser en fait sur les charnières adverses. Il oblige les charnières à faire certains choix qui libèrent un petit peu des espaces pour les autres. Et à ce titre-là, moi, je lui mets 4.
Bah, tu as du 4, du 3,5, du 4, du 4,5. Les remplaçants,
Fini. Bah, c'est clairement pas un grand match de Mbappé. Et d'ailleurs, ça fait deux matchs où ça coince un petit peu. Il a un début de saison mouvementé, le Kylian, entre la période où il faisait la tête et ça a été repris dans les médias, etc. L'épisode du penalty, le machin, le truc, le retour en forme, puis là ça coince un petit peu. Bon, il y a pas d'inquiétude à avoir, c'est Kylian Mbappé, il est cohérent.
Alors les remplaçants, 3 de moyenne pour tout le monde, on nous dit. Qu'est-ce que t'as pensé si tu devais noter des entrées, allez, de Nuno et Kitike, Sarabia et Ruiz, parce que Marquinhos n'a pas assez joué pour pouvoir le noter. Qu'est-ce que tu en penses de l'entrée des 4?
Bah, Nuno, moi je ne mettrais jamais 3 à Nuno, parce que c'est mon joueur préféré, mais je mettrais 4. Il fait une très mauvaise rentrée. Mais tu vois tout de suite, en dépit de la faute qu'il fait et d'une certaine agressivité, on pouvait dire, sur le terrain, tu vois tout de suite à quel point il peut faire parler la poudre par rapport à un Bernat. Tu sens que sur chacune de ses accélérations, ça peut partir. Il y a un moment où il se retrouve à centrer. Bon, son centre est contré, mais il donne quand même le tournis à son vis-à-vis. Et je lui mettrai 4. Après, c'était qui des autres? Les autres, c'est Ruiz.
Ruiz,
moi, j'ai beaucoup aimé, même si pas très bon. J'ai beaucoup aimé parce que vitesse de transmission de la balle. J'ai pas aimé parce qu'il n'a pas pris de risque dans ses passes. J'ai pas aimé parce qu'il a perdu des ballons faciles. J'ai pas aimé son implication défensive. Mais par contre, tu lui passes la balle, elle passe tout de suite à quelqu'un. Et en fait, tu avais des séquences comme ça qu'on n'a presque pas l'habitude de voir à Paris, où tu as un mini décalage qui est fait grâce à la vitesse de la transmission.
Et voilà, après, Ruiz, tu vois qu'il rentre comme quelqu'un qui n'a pas joué de toute façon depuis le début.
Oui, voilà, non, mais c'est juste, tu sens que c'est un joueur qui peut te faire accélérer le jeu de manière très, très intéressante. Et Kitike, bah, il s'est battu, je ne lui mettrais pas 4, c'est un peu dur, je lui mettrais 4,5 parce qu'il a passé.
2,5.
Moi, je lui mettrais 4,5. Le mec, il rentre, il se bat, il s'est battu sur les ballons. C'est pas comme si s'il était arrivé, il avait été une fraude, quoi.
Alors, ça, c'est sur Ruiz, mais ça marche aussi avec Ekitike. C'est vrai, ouais, que je vois beaucoup de. Voilà, je suis d'accord avec Laurent qui dit ça. Je vois beaucoup de critiques extrêmement dures sur Ekitike. Il ne faut pas oublier qu'il a zéro titularisation. Il a à chaque fois rentré pour 15-20 minutes. Les deux dernières rentrées qu'il avait fait, notamment à Toulouse et à Nantes, étaient intéressantes. Aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué, mais c'est compliqué de noter un joueur qui rentre quand l'équipe mène et gère le match et que le score est déjà plus ou moins plié. Ce n'était pas le cas contre Brest, mais c'était le cas contre Nantes et Toulouse.
Et ben,
voyons le titulaire avant.
Pour aller au-delà de ça, sur ce match, le mec, il se bat. Regardez la quantité des courses qu'il fait, la quantité des courses sans ballon pour aller mettre du pressing, la quantité des appels qu'il fait. Alors après, oui, il n'a pas été très adroit dans ses choix. Il fait une belle passe, mais sinon, il n'est pas très adroit dans ses choix. Mais le mec, il a pas ses repères et il est plein de bonne volonté, quoi.
Alors, ce sera un com de transition. Est-ce qu'on va noter Galtier moyen sur coaching ce soir? On va parler dès maintenant de Galtier.
Je voulais juste revenir sur deux dimensions que j'avais oubliées dans le jeu collectif. Est-ce que c'est possible?
Vas-y, rapidement.
Alors, très rapidement, un truc que j'ai apprécié, c'est que le rôle de Messi et de Neymar était beaucoup plus clair. Alors qu'avant, on était dans une espèce de brouhaha qui parfois était bénéfique, où on ne savait pas où était Messi, on ne savait pas où était Neymar, et on se disait, pour se rassurer, ah, mais c'est bien, ça tourne, ça permute en permanence. On a gardé les permutations, mais clairement Messi maintenant est le 10 et Neymar est un autre attaquant à côté d'Mbappé. Et du coup, la répartition des tâches étant plus claire, bah, c'est plus facile de trouver des solutions, mine de rien, et j'ai trouvé ça très appréciable. Par contre, un truc que je n'ai pas aimé, c'est juste avant de tirer un coup franc, on est à la 25e, on n'a pas encore marqué, et les mecs sont en train de rigoler entre eux. Enfin, tu vois, tu prends une équipe comme le Bayern, parce que c'est celle qui vient à l'esprit dans ce genre de situation. Quand le Bayern n'a pas marqué et ils ont un coup franc, les mecs, ils ne sont pas en train de rigoler, ils sont focus, ils sont comme ça, on va y aller, quoi. Et il y a encore trop de détente et un peu trop de laisser-aller. Et je voulais dire ça au niveau collectif. Et maintenant,
c'est pas que je vous kick, mais je vais juste allumer la lumière parce qu'il fait un peu sombre dans mon salon, donc ça met deux secondes.
Oups.
Et voilà, ce sera beaucoup mieux. Galtier et la rotation, alors on va en parler, parce que c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à plus de changements. Alors Galtier nous a bien eu en conf de presse hier, puisqu'il nous avait dit qu'il ne ferait pas de changement dans la ligne défensive, mais qu'il en ferait sûrement un milieu en attaque, et ça a été tout le contraire, puisqu'on a eu notre attaque et notre milieu type, et juste deux changements, Danilo à la place de Marquinhos, qui avait joué l'intégralité quasiment de tous les matchs depuis le début de saison, donc qui méritait de souffler, et Bernat à la place de Nuno. C'est vrai que pour un match, on va dire, qui était placé entre la Juventus de Turin, Maccabi Haïfa, qui a lieu mercredi, et Lyon dimanche, on pouvait dire que c'est le match où il pouvait profiter pour faire tourner. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'il aurait dû plus tourner ou tu comprends ses choix?
Les deux.
Vas-y.
il devrait faire plus tourner. Pourquoi? Parce que tout simplement pour des raisons, je sais pas comment les nommer, mais on joue tous les trois jours, il y a un moment les mecs peuvent se péter. Il faut tourner. En plus de ça, t'as d'autres gens sur le banc. C'est bien d'intégrer un petit peu plus les autres joueurs sur le banc, tout simplement. Parce que si t'en as besoin dans les matchs qui comptent, et ben, ils ont besoin de savoir jouer avec les autres aussi en situation de match. Savoir jouer avec les autres en situation d'entraînement, ça suffit pas. Et pour toutes ces raisons, ben, j'aimerais qu'ils fassent tourner plus. Maintenant, encore une fois, on travaille un système qui est complexe, qu'on va mettre du temps à vraiment pouvoir maîtriser. Il faut pas attendre ce Paris Saint-Germain en 3-4-1-2 qui va savoir jouer dès cette saison. Va plus falloir l'attendre la saison prochaine, surtout avec l'enchaînement des matchs. Il y a pas des masses d'espace pour travailler. Et comme je l'ai dit, pour moi, il y a des vrais progrès qu'on a vus pour l'instant au niveau de la charnière. Il y a des progrès au niveau de l'animation offensive et les redistributions de chacun. Il y a des progrès au niveau de l'occupation de l'espace. Quand on a la balle et qu'on est dans nos 20 mètres avec les milieux qui redescendent, il y a encore plein de trucs à régler. Et tant qu'on est comme ça dans une période de réglage des automatismes, ben j'ai tendance à comprendre pourquoi tout à coup tu vas faire un peu moins de changements parce que ouais, tu as besoin que les autres puissent jouer, mais tu as aussi besoin d'avoir des bons réflexes. Et l'autre dimension qui me fait être tolérant pour ça, c'est la gestion des égos. Et mine de rien, si on regarde sur la gestion des égos, bah là, tu as Neymar et tu as Mbappé qui sortent et c'est presque normal en fait. Alors que Neymar et Mbappé seraient sortis sur les coachs précédents, ça aurait été compliqué. Et pourquoi c'est presque normal qu'ils sortent? Parce qu'il a il les avait déjà fait sortir avant sur certains matchs, parce qu'il y a eu l'épisode du penalty gate qu'il a su résoudre en une semaine. Il faut y aller étape par étape. Tu ne peux pas attendre à ce que bah, ça soit tout de suite maintenant, bah, tu puisses tout de suite les mettre sur le banc. Et je pense que ça va mettre du temps et que petit à petit, c'est quelque chose qui va s'infuser. Alors là-dessus, clairement, je joue la carte de l'optimisme, mais j'ai l'impression que Galtier est en train de mettre en place quelque chose pour que tout le monde accepte justement ces nouvelles règles et c'est quelque chose qui va mettre du temps.
Alors moi je suis beaucoup plus en colère quand j'ai vu la compo. Je comprends pas. Alors peut-être que faire les automatismes, il veut les automatismes, ça veut dire que dans sa tête, il a déjà un 11 type qui est fait. Il part pas comme City, Munich ou Barça, qui même s'ils jouent en Ligue des Champions, vont tourner 3 à 4 joueurs, etc., etc. Pour lui, il a déjà un 11 type fait, quelle que soit la concurrence, il n'y en a pas. C'est 11 type et on ne discute pas. Les autres sont là juste pour souffler quand Kimpembe est blessé, quand Vitinha est suspendu contre Monaco, sinon on les voit pas. Et là, pour répondre à Polon qui dit au vu du niveau des remplaçants, c'est compliqué de ne pas lui donner raison. Ouais, mais les remplaçants, pour avoir du rythme, c'est pas en rentrant 15 minutes par-ci par-là qu'ils vont pouvoir se montrer. Si tu les titularises pas dans un match comme ça contre Brest, qui est relégable, entre deux matchs de Ligue des Champions, un match contre Lyon qui arrive, et derrière, après la trêve, tu rejoues Nice et Benfica, ça veut dire qu'on ne va pas les voir pendant 5 ou 6 semaines. Ils jouent quand? Ils jouent quand? Ils jouent quand? Et
J'ai une
Galtier,
question à poser là-dessus.
je n'ai pas fini. Pour finir, Galtier n'a pas arrêté sans cesse dans ses interviews depuis le début de l'année de nous dire que c'était important
Non.
d'avoir des postes doublés pour faire des changements entre les matchs et dans les matchs très tôt. Ça fait
Ah
quatre matchs de suite, quatre matchs de suite qu'il nous dit. Ah, j'aurais dû apporter du sang frais plus tôt, le prochain match, je le ferai. Et à chaque fois, les changements sont temps, c'est à la 75e maximum. Et
il
c'est
fait
pas.
quoi? Alors déjà 75e, c'est mieux par rapport à ce dont tu nous avais habitué, mais il fait quoi Bielsa quand il arrive à Marseille?
Eh bien, ça, il fait pas de changement, mais lui, il fait jamais de changement. Même en cours
Oui,
de saison. Bielsa, il a 11 types.
ouais, bien sûr, mais et pourquoi il fait pas de changement Bielsa?
Mais Bielsa, c'est un fou, tu peux pas prendre
Non,
ça
c'est pas une
comme raison.
question de fou. Oui, tiens, là c'est un
Bielsa, il
argument.
a 111, les automatismes, les automatismes, les automatismes. Et
Exactement.
c'est aussi son bug. Mais les
Oui,
automatismes de Galtier.
exactement ça. Sauf que si tu veux, là je continue par rapport à ça, c'est que là tu es en train de mettre en place un système que les joueurs ne connaissent pas, ne savent pas encore animer, ne maîtrisent pas encore
Alors,
et sur lequel ils ont besoin de progresser.
juste pour te
Et
répondre,
tu as besoin encore plus de créer des automatismes entre les uns et les autres. Et
juste pour te répondre.
après les déclarations de Galtier dans la presse, c'est aussi une part de communication. Il te parle pas. Quand Galtier il parle dans la presse, il te parle pas à toi. Il est en train de parler à ses joueurs en indirect. C'est, vous inquiétez pas, je vais vous faire jouer, etc., etc., etc. C'est une manière de calmer le truc. Mais en soi, travailler un nouveau système, se lancer dans un nouveau système, tu as besoin de développer des automatismes et tu as besoin d'avoir, surtout dans une période où en plus de ça, tu n'as pas de travail en milieu de semaine, de développer ces automatismes en match. Et tu peux pas complètement y couper. Alors après, bien sûr, on va être obligé d'y couper de facto parce que sinon tu vas finir avec 25 blessés. Mais en soi, pour moi, ça amène une autre lecture des choix que fait Galtier.
Les automatismes, tu dois les travailler dans un groupe de 16-17 qui sont prêts à être titulaires. Donc, si tu travailles des automatismes qu'avec un 11 et pas avec un banc, si tu as un blessé,
Non,
là,
d'accord.
Kimpembe est blessé, ça va être quelqu'un d'autre. Donc, ça change la dynamique des automatismes dès mercredi parce que Kimpembe ne pourra pas être mis. Si devant un des trois est blessé et qu'on d'un coup, Solaire, qui a joué 10 minutes en deux matchs, se retrouve titulaire, eh ben ouais, mais lui, il les a pas eu les automatismes non plus. Quant à Bielsa, lui, ne joue, il a toujours pris des équipes qui ne jouaient quasiment pas chaque 3 jours. Quand il jouait chaque 3 jours, Bielsa, lui, notamment en Coupe de la Ligue avec Leeds, il met carrément un 11B. Donc lui, c'est 11 type ou 11B. Il s'en fout de faire de quelques rotations.
C'est
Mais
un
moi,
peu comme Londres.
ce que j'aimerais, c'est faire comme peut le faire City, comme peut le faire Barcelone, comme peut le faire Munich, c'est que même quand tu joues en Ligue des Champions, pouvoir changer de 3 joueurs.
Et ce
Par
serait
exemple, avoir un Ruiz Verratti, un Verratti Ruiz ou un Ruiz Vitinha, peu importe.
ce qui serait très intéressant, c'est d'aller voir les 20 premiers matchs de Guardiola quand il commence à Munich, quand il commence à City.
Il change tous les matchs.
Les 20 premiers
Et
matchs?
deux systèmes, deux compos, à chaque fois il y a trois changements dès les 20 premiers matchs. Ouais.
T'es sûr de ça?
À City, pareil. Xavi à Barcelone, pareil. Nagelsmann à Munich, pareil.
Ok, d'accord. Mais en tout cas, moi, je peux comprendre pourquoi tu le fais. Après, comme je le disais, bah, j'aimerais bien qu'en effet, les autres soient impliqués, dans la manière de jouer.
En fait, le problème, c'est tu vois, s'il y avait eu un match disons samedi, qui était de nouveau contre, disons, Ajaccio ou Troyes, et qu'il aurait mis l'équipe type aujourd'hui avant les automatismes contre Haïfa et tourner un peu plus. Là, le problème, c'est qu'on a eu le 11 type contre la Juve, deux changements aujourd'hui, et on risque d'avoir de nouveau le 11 type contre Haïfa et contre Lyon. C'est-à-dire qu'on n'aura eu que deux changements sur quatre.
Il y aura un qui va se proposer, je pense.
Après, ça se trouve, il va me donner tort, il va changer de trois joueurs contre Haïfa ou contre Lyon. Ça, j'en sais rien. C'est possible. Mais vu comment il est parti, j'ai l'impression qu'il va mettre le 11 type dans ces deux matchs. Mais je ne peux pas le jurer. Alors les gens dans les commentaires, c'est assez mitigé. Il y en a qui se disent d'accord avec Dreyas, d'autres qui disent un turnover. Galtier a demandé des recrues en double pour finalement ne pas les aligner en début de match, surtout contre des équipes aussi faibles. Disons que ça l'arrange bien que certains soient arrivés assez tard dans le mercato, ça facilite la gestion des égos, mais du coup il reste dans la facilité. Il y a un peu de tout. C'est vrai que sur Messi, en début de match, il nous dit on a pensé à reposer Messi et puis finalement il était apte à débuter. T'as l'impression que quand il le dit, c'est un peu on a demandé à Messi s'il voulait jouer, il a dit oui, je veux jouer, donc on le met. Et en plus, il joue les 90 minutes au passage.
Mais c'est possible ça, hein. C'est possible.
Ah, mais là, c'est un problème si t'en es déjà là.
Oui, mais le truc en fait, si tu veux, c'est que tu viens pas de nulle part. La gestion des égos au Paris Saint-Germain, ça fait combien de temps qu'on en parle ? Même quand il n'y avait pas de raison d'avoir des égos, on était déjà en train de parler de la gestion des égos. Là, tu te retrouves avec Messi, avec Neymar, avec Mbappé. Il y en a au moins deux sur les trois qui sont très connus pour avoir des problématiques d'égo. Messi le fait d'une manière discrète. N'oublions pas comment Messi a géré tous les attaquants qui sont passés par le Barcelone avant de tomber sur Suarez, qu'il a fini par accepter, etc., etc., etc. Et il y a une gouvernance qui a mis en place pendant 5-6 ans un état de fait où les égos, c'est les égos qui ont raison quoi qu'il advienne. Donc il y a un moment où si tu veux faire la transition, tu es obligé d'y aller par étapes. Si tu casses tout d'un coup, tu te retrouves avec tout le monde contre toi, mais pas seulement au niveau des joueurs, mais au niveau de l'encadrement, des machins, des trucs, enfin tu t'en sors pas. Et puis même les joueurs qui sont dans un mindset par rapport à une logique qui était là en place, ce mindset là, il faut le faire évoluer et attendre que ça évolue tout de suite alors que si tu veux ça fait 6 ans qu'on a une gestion, enfin je veux dire les Thiago Silva qui avait le numéro direct de Nasser El Khelaifi, ça je l'invente pas, les joueurs qui parlaient directement avec, et que ça c'était presque institutionnalisé pendant un moment, changer de logiciel, ça viendra pas d'un coup, ça viendra pas tout de suite, c'est pas quelque chose qui arrivera demain. On en est encore effectivement à un joueur dit je veux jouer donc je joue, on en est encore à ça. Mais si ça va dans le bon sens, moi ça me va, parce que je suis pas en train d'attendre à ce qu'on change tout de suite, parce que ça serait casse-gueule et de toute façon ça marcherait pas.
Alors on parle pas de changer tout de suite, on parle pas de le mettre sur le banc contre Haïfa ou Lyon, on parle dans un match coincé en 4 matchs, Messi qui a joué 790 minutes. Messi n'a raté que 18 minutes cette année.
Tu me réponds avec un argument rationnel.
Le problème, c'est que le club, Campos et Galtier en tête dans les interviews, nous ont fait un storytelling tout l'été pour nous dire on pourra mettre tout le monde sur le banc, on a les clés en main, ce ne sera pas un problème. Si on doit faire partir Neymar, on fera partir Neymar. Si on doit le mettre sur le banc, on fait partir sur le banc. Et maintenant, on nous dit le mec voulait jouer, donc on le met. Et les Ekitike, les Sarabia, les Solaire, on leur a entendu quel discours ? Campos, il leur a dit vous allez jouer qu'en Coupe de France, vous allez jouer que les matchs en bois. Tu crois qu'ils sont contents ? Attention, c'est à trouver l'équilibre entre ne pas froisser les trois stars et ne pas perdre ton banc. Parce que si tu perds ton banc, t'es foutu. Ta saison, elle est finie.
J'ai jamais dit que c'était simple. Mais je dis juste que si tu veux, changer le logiciel du rapport des joueurs et notamment des joueurs stars, du rapport donc de ces joueurs avec le club, n'est pas quelque chose d'aisé et c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et les déclarations qu'il y a eu cet été, tu vois, tu les as jugées. En fait, si tu veux, tu connais pas la motivation des gens qui font les déclarations. Toi, tu les prends pour toi, mais elles sont pas adressées à toi. Elles sont adressées à qui veut les entendre. Et c'est encore pire. On va changer de logiciel. Après, il faut réussir à le faire.
C'est encore pire, en fait, pour ton groupe quand à la fin de chaque match, il dit je vais mettre du sang frais, je vais faire des changements plutôt qu'il le fait pas. Tu désespères encore plus tes remplaçants pour moi. Tu dis que ça ne s'adresse pas aux supporters.
Il se passe quoi à Football Manager quand tu fais cette réponse dans le jeu au niveau de ton coaching après match ?
De quoi ?
Football Manager, quand tu dis ça et que tu fais pas.
T'as pas la possibilité de faire ça, mais par contre, si je mets mes stars en CFA, elles disent rien. Moi, je l'ai. C'est plus. Alors, juste pour répondre à une tête qui dit ficher le camp à Messi, toujours à le critiquer, c'est faux, je ne fais que. Dire du bien de Messi depuis des matchs. Et là, je critiquais plus la gestion de Galtier avec Messi, non pas le fait que Messi joue. Hein, attention.
Mais après, il avait raison, le commentaire. On le disait, le commentaire que tu avais mis en avant juste avant, qui disait que oui, ouais, bah, les remplaçants, il ne faut pas les perdre. Et notamment quand tu prends un Solaire qui est un jeune talentueux, enfin, moi, je ne sais pas encore ce qu'il vaut parce que je ne le connais pas, qui est un jeune talentueux, oui, il va falloir gérer tout ça. Et
Et ça,
c'est l'autre dimension à prendre en compte dans l'équation qui t'est imposée quand
et
tu.
la deuxième, c'est au-delà de donner du temps de jeu, que ce soit contre Brest ou machin, tu as des joueurs comme Ruiz, Solaire ou même Mukiele, on va dire, c'est tous des joueurs internationaux. C'est plus des mecs, des jeunes ou des joueurs en fin de carrière. C'est plus le même banc que l'année dernière. C'est quand même un banc où les gens sont internationaux. Ruiz et Solaire vont faire la Coupe du Monde, Sarabia aussi avec l'Espagne. Donc ils ont aussi besoin de temps de jeu avant novembre, puisqu'ils seront dans le groupe normalement pour la Coupe du Monde. Et c'est quand même des joueurs qui doivent être plus intégrés que ce qu'on a pu avoir l'année dernière, où c'était facile, ils se contentaient de 25 minutes par-ci, 30 minutes par-là, les Dagba, les Becker, etc. Ces joueurs-là, pour moi, comme le dit Alder Paqueta, à terme, j'espère vraiment que d'un match à l'autre, que tu joues un petit ou que tu joues un gros, on arrivera à faire 2-3 changements en s'adaptant à l'adversaire. Mais j'ai peur que ce ne soit pas le cas.
J'espère exactement la même chose. Si tu veux, le bémol que je fais par rapport à la manière avec laquelle tu présentes les choses, c'est juste qu'on est le Paris Saint-Germain, qu'on a une culture là-dessus qui est absolument dégueulasse, qui a été institutionnalisée dans les années précédentes, et que changer cette culture, ça se fait pas en un jour. Après, je suis pas en train de dire que Galtier fait que ça va aller dans le bon sens. Je dis juste que si il veut aller dans le bon sens, eh ben ça prendra du temps et c'est inévitable. Après, je ne sais pas exactement quelles sont les intentions et la journée de Galtier. Hein. J'ai pas la science infuse là-dessus, quoi.
Alors, vous n'avez pas prononcé le nom de Renato Sanchez, mais il est blessé, il est déjà blessé pour 2 semaines, donc on n'en a pas parlé dans la gestion du temps de jeu des prochains matchs, forcément, puisqu'il ne sera pas là.
Et ça, et Renato Sanchez. Et alors, c'est Sanchez avec un S, hein, c'est pas Sanchez avec un Z. C'est un portugais. Je vais pas faire mon tonton, mais voilà. Et en soi, pour l'instant, ses entrées n'ont pas apporté satisfaction, vraiment pas. Et il a eu une titu et deux rentrées, je crois. Et même à la troisième, c'était pas vraiment mieux. Donc, il y a un moment où il va falloir qu'il monte des choses à l'entraînement, je pense.
Alors, le com de Senna qui nous dit à City, Calvin Philippe joue pas beaucoup, c'est normal dans les grands clubs. Pour lui répondre, c'est un peu différent. Tu vois, Vitinha joue par exemple tout de suite, Haaland joue tout de suite. C'est juste que Calvin Phillips doit s'adapter lui à un nouveau jeu avec Guardiola. Donc, une nouvelle manière d'appréhender le football qui est très différente. Je pense qu'on le verra lui de plus en plus. Et puis, City, de toute façon, ils n'ont pas un 11, ils ont déjà 15-16 joueurs interchangeables d'un match à l'autre. En Ligue des Champions, on peut avoir Bernardo sur le banc, Gundogan sur le banc, puis le match d'après, les deux titulaires contre Liverpool en première ligue. Donc, eux, ils en sont déjà à un point où ils peuvent prendre leur temps avec un Calvin Phillips. Du coup, contre Haïfa, tu t'espères une équipe type, Seb, ou tu veux qu'il y ait un peu de gestion, parce qu'on risque d'être peut-être fatigué contre Lyon, qui a un match important à Lyon, qui est peut-être
Ah,
plus important qu'Haïfa.
j'avais pas pensé à ça. En fait, si tu veux, là-dessus, c'est tout le problème. Et c'est là où tu as raison. C'est qu'on s'est préparé pour ne pouvoir jouer qu'avec une équipe type à IFA, en fait. On n'a pas eu la préparation qui permettrait plus, par exemple, oui, avoir un Ekitike qui aurait été titulaire aujourd'hui, avoir un j'en sais rien. Tiens,
Solaire.
Ruiz, on n'en a pas assez parlé parce que Ruiz-Vitinha, ça peut pas marcher, mais.
Non, mais si ça peut marcher, mais c'est trop tôt. Solaire qui aurait pu notamment jouer ce soir, qui est déjà prêt parce qu'il a joué avec Valence,
Aussi,
avec
etc.
Alexandre.
Et maintenant, ça va être compliqué, mais tu vas te retrouver dans une situation où tu n'as pas le choix. Donc, bonne chance au coach. On va voir ce qu'il va faire, quoi. On va voir ce qu'il va faire, mais c'est complexe.
Bah, peut-être qu'il tournera à Lyon après, mais c'est vrai que c'est un match très important du début de saison. Le premier
Mais,
test contre Monaco s'est mal passé, tu es obligé d'aller marquer des essais.
ah, et puis Lyon, c'est pas une équipe qui a fait un mauvais départ de championnat. Là, tu es obligé d'aller chercher les 3 points et de mettre de la distance contre eux, quoi. Ou à minimum un match nul.
Ils viennent de perdre à Lorient, mais sinon c'était
Ah
13 points en
oui.
5 matchs avant. Mais tu as Marseille qui a le même nombre de points que nous, tu as Lens qui est juste derrière.
Ouais, puis Lyon, tu as envie, si tu peux les distancer, tu as envie de le faire. Faut pas louper l'occasion.
Et puis c'est important de marquer les esprits, comme je dis, après avoir fait un nul dans le premier choc contre Monaco, même si Monaco était mal classé, ça reste un nom. Pouvoir aller gagner les noms, ce sera important juste avant la trêve internationale en plus pour passer une bonne trêve. Je pense qu'on a fait le tour, je sais pas, oui, je pense que c'est bon, je regarde dans les commentaires, mais c'était assez mitigé sur la gestion de Galtier. Les gens étaient d'accord sur les notes, mais sur la gestion de Galtier, ça divise beaucoup plus. Et ben, je vous dis à tous, merci de nous avoir écoutés, merci Dryas.
Merci tout le monde.
Et on se retrouve bientôt pour un prochain live, bah sûrement pour débriefer le match en Israël contre le Maccabi Haïfa mercredi. Salut à tous!
Ciao. Ici c'est pareil. Faut que tu l'arrêtes, hein.
Oui, bah je suis en train.